Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi tant de joueurs sont nés en janvier? Un texte de Étienne Guertin-Tardif, paru le 13 avril 2026 dans La Presse. Étienne Guertin-Tardif, auteur du livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins et autres phénomènes de société expliqués ». La saison régulière du Canadien de Montréal tire à sa fin. Portée par l'une des plus jeunes formations de la LNH, l'équipe s'est démarquée tout au long de l'année par sa vitesse et son intensité. Les analystes ont abondamment commenté l'habileté des joueurs, leur progression, leur potentiel, mais il y a un curieux détail dont ils parlent moins souvent. La proportion étonnamment élevée de joueurs nés au début de l'année. Un simple coup d'œil sur la composition récente de la formation suffit pour s'en convaincre. Sur les 25 joueurs du Canadien, 12 sont nés lors des trois premiers mois de l'année, dont 7 en janvier seulement. 5 autres sont nés lors des trois mois suivants, c'est-à-dire d'avril à juin, contre 4 de juillet à septembre et 4 d'octobre à décembre. Le constat est clair. Plus on avance dans l'année, plus les anniversaires se font rares dans le vestiaire. Ce phénomène, on l'observe dans la plupart des ligues professionnelles. Dans mon livre « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins », je propose de le résumer par la règle du 40-30-20-10. À l'échelle d'une ligue comme la LHJMQ, environ 40% des joueurs sont nés au premier trimestre de l'année, 30% au trimestre suivant, 20% entre juillet et septembre et seulement 10% dans les trois derniers mois, et ce, année après année. Un amateur d'astrologie y verrait peut-être la preuve que les Capricornes et les Verseaux sont naturellement doués pour le hockey. Mais la clé de l'énigme est évidemment plus simple. Dans la plupart des ligues de hockey mineur, la date limite d'inscription est fixée au 1er janvier. Ainsi, un enfant né en janvier et un autre né en décembre de la même année se retrouvent dans la même catégorie d'âge, alors qu'ils ont 11 ou 12 mois d'écart. Tous les parents le savent. À 4, 6 ou 8 ans, ces quelques mois d'écart peuvent faire toute la différence. Ils se traduisent par des avantages sur les plans physiques, moteurs et cognitifs. L'enfant né en début d'année est en général plus grand, plus fort et plus habile que la plupart de ses coéquipiers, simplement parce qu'il est plus vieux. Les psychologues connaissent bien ce curieux phénomène qu'ils ont nommé l'effet d'âge relatif. Dans le monde du sport, ce sont trois jeunes chercheurs en kinésiologie de l'Université de Sherbrooke, Simon Grondin, Paul Deshaies et Louis-Philippe Nau, qui ont été les premiers à faire cette découverte au milieu des années 1980. En analysant les dates d'anniversaire d'environ 4000 hockeyeurs évoluant dans les ligues mineures élites du Québec, ils ont mis en évidence des écarts significatifs dans la répartition des naissances au cours de l'année. 40 ans plus tard, pourtant, l'examen du mois de naissance des joueurs élites révèle que les entraîneurs et les recruteurs tendent encore à interpréter cet avantage développemental comme un signe de talent naturel. Résultat, les joueurs plus âgés disputent en moyenne plus de matchs, reçoivent davantage d'encouragement, attirent l'attention des recruteurs, sont plus souvent sélectionnés dans les équipes élites et bénéficient, en somme, d'un meilleur encadrement. Ce processus enclenche ce que le sociologue Robert Merton appelle une prophétie autoréalisatrice. Plus un hockeyeur paraît talentueux, plus on investit en lui, ce qui augmente ses chances de progresser, non pas seulement en raison de son talent, rappelons-le, mais des meilleures conditions de développement qui lui sont offertes. Qu'en est-il des joueurs nés en fin d'année? Rappelons d'abord que le mois de naissance ne détermine pas tout. Samuel Montembeau, Jacob Fowler ou Ivan Demidov jouent pour le CH, bien qu'ils soient respectivement nés en octobre, novembre et décembre. Mais ces exceptions ne doivent pas masquer la tendance générale. Les jeunes joueurs d'une cohorte intériorisent plutôt l'idée qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour atteindre les plus hauts niveaux. Ils sont alors plus nombreux à quitter le sport avant même d'avoir pu révéler leur plein potentiel. Le constat est cruel. Des milliers de joueurs talentueux abandonnent chaque année le rêve d'une carrière professionnelle pour une raison qui n'a rien à voir avec les capacités réelles, à savoir la date à laquelle ils ont eu la malchance de venir au monde. Un phénomène qui dépasse le cadre sportif. Ce qui est frappant, voire carrément troublant, c'est de remarquer que l'effet d'âge relatif ne se limite pas aux patinoires. On le retrouve aussi sur les bancs d'école. Un rapport publié en Angleterre dévoile par exemple que les enfants nés juste avant la date d'entrée ont 20% moins de chances d'étudier à l'université que les plus vieux de leur classe. Selon les auteurs, si tous les enfants anglais avaient la même chance d'aller à l'université que ceux nés pendant le premier mois de l'année scolaire, il y aurait environ 12 000 entrées supplémentaires par cohorte. Une étude norvégienne, publiée en 2023, arrive à des conclusions similaires. Les jeunes élèves sont plus susceptibles de s'orienter vers des filières professionnelles, délaissant ainsi les bancs de l'université. Et le Québec n'est pas en reste. Des chercheurs du Cyrano ont récemment montré que le risque pour un enfant d'avoir un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention, TDAH, varie fortement selon son mois de naissance. En analysant les données de près de 800 000 jeunes, ils ont révélé que les enfants nés en septembre, les plus jeunes de leur cohorte, présentent des taux de diagnostic et de médication 35 % plus élevés que ceux nés en octobre. On constate ainsi que le personnel scolaire, du moins celui impliqué dans l'attribution des diagnostics, et les recruteurs sportifs tombent, au fond, dans le même piège. Ils confondent des écarts de maturité liés à l'âge avec des traits circonscrits à l'enfant, qu'il s'agisse de troubles neurologiques ou de talents naturels. Ces deux exemples illustrent un principe sociologique fondamental. Ce que nous attribuons à des qualités personnelles relève souvent de mécanismes structurels invisibles. En regroupant les individus selon leur mois de naissance, on avantage systématiquement les plus âgés au détriment des plus jeunes. Et le plus grand des avantages tient peut-être au fait que l'effet d'âge relatif demeure largement invisible aux yeux de la plupart d'entre nous. Mois de naissance des joueurs de l'alignement 2025-2026 du Canadien de Montréal. Janvier à mars. Zachary Bolduc, Cole Caulfield, Kirby Dash, Philippe Dano, Alex Newhook, Jurav Slavovski, Joe Veleno, Noah Dobson, Caden Gould, Lane Hodgson, Mike Matheson, Arbor Kajak. Avril à juin. Josh Anderson, Jake Evans, Brendan Gallagher, Patrick Klein, Jacob Dobes. Juillet à septembre. Oliver Kapanen, Nick Suzuki, Alexandre Texier, Jaden Strudel. Octobre à décembre, Ivan Demidov, Alexandre Carrier, Jacob Fowler, Samuel Montembeau. C'était « Pourquoi tant de joueurs sont nés en janvier », un texte de Étienne Guertin-Tardif, paru le 13 avril 2026 dans La Presse.
Guide Mémo Québec. Déclarer ses besoins au personnel médical. Guide essentiel pour les personnes ayant une lésion médulaire. Un texte de Jessica Picard, conseillère principale en intégration. Éric Gilbert, conseiller père bénévole. Paru dans le numéro 169, printemps 2026. Du magazine Paraquad. Se rendre à l'hôpital ou en clinique peut être stressant, surtout lorsqu'on vit avec une lésion médulaire. Pour garantir des soins sécuritaires et adaptés, il est crucial de bien communiquer vos besoins spécifiques. Ce guide pratique vous aidera à vous préparer et à vous affirmer. 1. Préparez votre dossier avant de partir. Emportez une liste de votre médication. Gardez la liste à jour et facilement accessible. Faites un résumé de votre condition. Incluez les particularités liées à votre lésion médulaire. BM, LM. Il est possible de vous préparer à l'avance au cas où vous seriez hospitalisé. Ajoutez les informations à jour par la suite. 2. Soins urinaires. Vigilance maximale. Les milieux hospitaliers sont des environnements où circulent de nombreux virus, bactéries et microbes. Votre vigilance doit être accrue. Maintenez votre routine habituelle. Lavez-vous les mains correctement avant toute manipulation. Assurez-vous que votre cathéter ne touche aucune surface. Si le cathéter ou la sonde est installée par le personnel, vérifiez que la procédure est réalisée dans des conditions stériles. Gants, matériel, environnement. En cas d'hospitalisation prolongée, si votre état le permet, demandez l'installation d'une sonde pour réduire les risques d'infection urinaire. 3. Soins intestinaux. Respectez votre routine. Informez le personnel de vos habitudes. Horaires précis pour la médication, techniques spécifiques, curage, stimulation, etc. Ne laissez pas vos soins intestinaux être modifiés sans votre accord. 4. Prévention des plaies de pression. Priorité absolue. Mentionnez toute plaie actuelle ou votre historique de plaies. À l'urgence ou en hospitalisation, demandez un matelas de prévention des plaies. Si on vous dit qu'il n'y en a pas, insistez, ils en ont. Présentez votre carte au personnel de santé. Demandez de scanner le code QR et, au besoin, parlez à une infirmière responsable ou à un médecin. Évitez les plis dans les couvertures et les draps. Après une incontinence, exigez des soins d'hygiène rapides pour prévenir les plaies. Si vous constatez l'apparition de rougeurs, prenez des photos au moins 2 fois par jour afin de garder un contrôle et de vous assurer qu'il n'y ait pas de dégradation à votre insu. Rougeur égale plaie de stade 1. 5. Hyperréflexie. Dysréflexie, reconnaître et intervenir. Cette complication grave nécessite une réaction immédiate. Elle se caractérise par une augmentation soudaine et dangereuse de la tension artérielle, déclenchée par un stimulus nocif situé en dessous de la lésion, comme une vessie trop pleine, une infection urinaire ou un trouble intestinal. Parfois, une tension à 135 peut être considérée élevée et dangereuse pour une personne ayant une pression de base plus basse, surtout chez les tétraplégiques. Cette condition est plus fréquente pour les lésions à la hauteur de D6 ou supérieure. Présentez votre carte au personnel. Si vous ne l'avez pas sur vous, expliquez la situation et demandez qu'il se renseigne. Connaître votre pression de base est essentiel. Risque grave. Crise hypertensive. Élévation soudaine et dangereuse de la tension artérielle. AVC. Risque de rupture des vaisseaux sanguins. Crise convulsive. Troubles cardiaques. Décès en l'absence de prise en charge rapide. Facteur déclencheur. Vessie, distension, sonde obstruée, infection urinaire, cause la plus fréquente. Intestin, constipation sévère, fécalome. Autre, douleur intense, escarre, vêtements trop serrés, activité sexuelle, menstruation, etc. Signe d'alerte. Maux de tête violents et pulsations. Rougeur et transpiration au-dessus de la lésion. Frissons ou chair de poule. Vision floue. Yeux gonflés. Nez bouché. Congestion. Nausée. Vomissement. Anxiété. Sensation de malaise. Action urgente. Se redresser, s'asseoir pour aider à réduire la tension. Identifier la cause. Vérifier la vessie, sonde, besoin d'uriner. L'intestin, constipation. La peau. Prévenir immédiatement le personnel et exiger une intervention rapide. 6. Transferts et équipements. Expliquez vos techniques de transfert, type de toile, méthode. Si possible, apportez votre propre toile, planche ou autres outils. Gardez votre gourde d'eau. L'hydratation est votre meilleur allié contre les complications. 7. Informez vos proches. Assurez-vous que vos proches connaissent vos besoins spécifiques pour vous soutenir efficacement en cas d'hospitalisation. 8. Comment se présenter et affirmer ses besoins? Lorsque le personnel vous demande la raison de votre visite, commencez par « Êtes-vous familier avec les lésions médulaires? » Puis présentez votre carte. Cela favorise l'écoute et la prise en compte de votre condition. Même en situation de stress, prenez le temps d'expliquer. Si vos besoins ne sont pas considérés, demandez à parler à un supérieur. Décrivez vos symptômes en lien avec votre expérience. Je sais que ces spasmes indiquent une infection urinaire. Ou ce type de spasme survient quand je suis constipé. Vos observations sont crédibles et doivent être respectées. 9. Restez calme et persévérant. Ne vous fâchez pas. Cela complique la communication. Faites comprendre que vos demandes ne sont pas des caprices, mais des besoins essentiels. Les matelas de prévention des plaies sont prioritaires. Ne lâchez pas le morceau. 10. Où vous procurez les cartes? Dans l'Est du Québec, IRDPQ, Clinique Urologie, Clinique Externe, Physiatre, Bureau de Mémo Québec. Dans l'Ouest du Québec, Bureau de Mémo Québec à l'IRGLM. Votre santé et votre confort sont prioritaires. En affirmant vos besoins avec calme et assurance, vous contribuez à des soins plus sécuritaires et adaptés. N'oubliez pas, votre expérience compte. Vos observations sont précieuses et votre voix mérite d'être entendue. Afin de bien vous préparer, n'hésitez pas à aller revisiter votre guide. Vivre avec une lésion médulaire, www.lésionmédulaire.com. C'était Déclarer ses besoins au personnel médical, guide essentiel pour les personnes ayant une lésion médulaire. Un texte de Jessica Picard et Éric Gilbert, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.
Un recours aux médias qui a de grands impacts. Le cas de Philippe de Passier. Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay, organisatrice communautaire en défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. En décembre 2024, Philippe de Passier, membre de Mémo Québec, résident à Québec, nous a sollicité pour dénoncer dans les médias une situation inacceptable qu'il a vécue à l'urgence d'un hôpital. Pour que personne d'autre ne vive une pareille situation, nous a-t-il dit. Le 16 décembre, nous avons envoyé au président-directeur général, le PDG, du Centre hospitalier universitaire, le CHU de Québec, une lettre intitulée « Non-assistance à quelqu'un en difficulté à l'urgence de l'hôpital de l'Enfant-Jésus ». Cette lettre a également été envoyée aux médias à la demande de M. de Passier. Nous avons obtenu un reportage à TVA Nouvelles, une entrevue à l'émission de Patrick Lagacé et un autre article sur le site de CBC News. Les faits se sont déroulés ainsi. En septembre 2024, Philippe de Passier s'est rendu à l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec alors qu'il sentait son corps se paralyser. Arrivé à l'urgence, son épouse a demandé de l'aide pour transférer son mari de leur véhicule à une chaise roulante. Le personnel de l'accueil a tout simplement refusé. Madame de Passier et un bon samaritain venu à leur secours ont dû se charger eux-mêmes du transfert, ce qui les a mis tous deux à risque. Ce refus a coûté à M. de Passier un délai d'intervention dans un moment extrêmement urgent, celui d'un infarctus de la moelle épinière. Invitation du PDG du CHU de Québec. Quelques jours plus tard, nous avons obtenu une invitation du PDG du CHU de Québec pour échanger sur des pistes d'amélioration de l'accueil des personnes lésées médulaires, PLM, dans ces 6 établissements. Rappelons que l'hôpital de l'Enfant-Jésus est l'hôpital désigné dans la trajectoire de soins des PLM et qu'il fait partie du Centre d'expertise pour personnes blessées médulaires de l'Est du Québec. Cet hôpital offre plusieurs spécialités auxquelles nos membres ont recours en externe, comme, par exemple, la chirurgie plastique et la neurologie. Le 26 février 2025, 4 membres de l'équipe de Mémo Québec ont rencontré le PDG et 3 membres de la direction du CHU de Québec. Nous leur avons présenté des problèmes récurrents rencontrés par nos membres concernant 1. La prise en compte des spécificités des PLM aux urgences, 2. Les suivis et examens à l'externe, 3. La prise en charge lors d'hospitalisation, 4. L'arrimage avec les services à domicile lors des congés, 5. Les problèmes reliés au stationnement réservé. Plainte au protecteur du citoyen et gain. Dès la réception de notre lettre, le PDG du CHU de Québec avait demandé au commissaire aux plaintes et à la qualité des services de faire enquête. Comme son rapport daté du 20 décembre nous semblait insatisfaisant, nous avons convenu avec M. de Passillé de porter plainte auprès du protecteur du citoyen. Celui-ci nous a rappelé en septembre 2025 pour nous faire part de recommandations additionnelles adressées non seulement à l'hôpital de l'Enfant Jésus, mais aux urgences des 6 établissements du CHU de Québec. Ces recommandations insistent sur le rappel des obligations, sur la nomination de responsables et sur la formation continue de l'ensemble du personnel. Certaines recommandations sont déjà en processus de mise en œuvre. C'était un recours aux médias qui a de grands impacts, le cas de Philippe de Passillé, un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay, organisatrice communautaire en défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. Une action collective pour porter notre voix commune. Un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay, organisatrice communautaire au volet Défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. Mémo Québec explore la possibilité d'intenter une action collective contre le M3S, Agence Santé Québec, pour les personnes avec une déficience motrice ayant développé des plaies de pression. Cette procédure favorise l'accès à la justice en permettant à une personne d'intenter une action au nom de toutes les personnes qui se trouvent dans une situation similaire à la sienne. Les critères d'inclusion pour déterminer les membres du groupe de demandeurs de l'action collective sont encore à confirmer. Pour le moment, ils ressemblent à personne vivant avec une déficience motrice, ayant développé ou vu s'aggraver une plaie de pression, qui est le résultat de négligence ou de soins inadéquats qui peuvent être documentés de manière objective, exemple, évaluation des risques de plaies non effectués, risques évalués mais non transférés au plan de soins, délai d'accès à une surface thérapeutique. Lors d'un séjour dans un établissement de santé du Québec, lors d'un séjour à l'urgence d'un établissement de santé du Québec, Mémo Québec invite les personnes intéressées par cette démarche à surveiller les informations qui seront publiées dans nos prochaines infolettres. C'était une action collective pour porter notre voix commune, un texte d'Ariane Gauthier-Tremblay, organisatrice communautaire au volet Défense des droits, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.